ses recherches et études sur le Moyen-Âge, spécialiste du Moyen-Âge, donc il était venu déjà dans le passé faire des conférences à l'Institut Saint-Pédis. Je me rappelle pour moi une conférence qu'il avait bien voulu venir nous faire lorsque j'y étais, et depuis je crois qu'il n'a pas hésité à faire quelques autres conférences dans nos milieux, que ce soit pour l'Action française, pour certaines universités d'été ou d'hiver, ou je ne sais quoi. Et donc il est tout à fait de notre famille de pensée, nous sommes de sa famille de pensée, en tout cas nous sommes de pas d'accord sur l'essentiel, c'est ça qui compte. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont lu, si vous n'avez pas fait, c'est chacune, qu'il faudra préparer rapidement, voyez, cet ouvrage qui est... Je crois, monsieur Chatel me disait il y a quelque temps, qui est magistral, ce que l'on peut faire de mieux sur la question, sur le Moyen-Âge, pour mettre au point certaines choses, tout ce que l'on peut dire autour de ce triste Moyen-Âge, sombre, obscur et je ne sais quoi. Donc, monsieur Hirst, dans ce petit ouvrage, qui se lit très très facilement, bien fait le point sur toutes ces questions-là, donc je vous conseille cette lecture, elle fera beaucoup de bien. Et c'est une partie, je crois, de ses études, de ses recherches, il l'a bien voulu venir nous présenter en nous traitant ce soir, donc plus spécialement le côté de la paysannerie, je crois, au Moyen-Âge. On a dit beaucoup de choses sur ces pauvres et malheureux paysans. Peut-être, mais c'est-il pas aussi malheureux qu'on le dit, je ne sais pas, nous verrons.
Nous allons voir ensemble, monsieur.
Je vous remercie de cet accueil. Et tous ici d'être présents. Je ne voudrais pas trop me répéter si certains m'ont déjà entendu, ni non plus tirer tout ce que j'ai à dire aujourd'hui de ce livre, essayer d'y rajouter un peu, parce qu'en quelques années tout de même, même l'auteur finit, n'est-ce pas, par réfléchir et avoir d'autres aperçus. Vous avez raison, monsieur l'abbé, ce sera une partie destinée limité à la paysannerie, au monde paysan, car on pourrait naturellement en imaginer ou en retenir bien d'autres. Ce livre, au fond, était un diptyque. D'un côté, ce qui s'est fait beaucoup, la réhabilitation du Moyen-Âge, ou plutôt, je vais beaucoup plus loin, dire que ce Moyen-Âge ne peut pas exister puisque ce n'est qu'une création pédagogique, n'est-ce pas ? Et que personne, ni ici, ni ailleurs, ne pourra en aucun cas en situer ni le début, ni la fin. C'est parfaitement artificiel, parfaitement arbitraire, ça c'est une chose. Et puis alors l'autre partie du livre était évidemment, alors là, il me faudrait beaucoup plus de force, de conviction pour vous entraîner avec moi, vous ne l'avez pas demandé, c'est une attaque contre la notion même de renaissance. Alors c'est pour vous dire que là, maintenant je peux paraître, et c'est très dommage ici, tout à fait hérétique, mais enfin j'annonce quand même mes opinions là. Ce Moyen-Âge a été très mal vu, il est encore dans le parler courant, et même chez quantité de collègues qui ne sont pas médiévistes, mais le journalisme n'a couramment, c'est pas tout à fait l'abomination de la désolation. Moyen-Âgeux, c'est pas beau, il y a pire, n'est-ce pas, c'est féodal, alors féodal c'est affreux, mais c'est entendu. Alors, en quelques instants, j'aimerais me situer, n'est-ce pas, et montrer comment, après un certain nombre d'années, vous n'avez qu'à me regarder pour en être persuadé, n'est-ce pas, je me suis quand même mis à réfléchir sur les raisons de ce discrédit, et pourquoi. Pourquoi pendant des années, et encore maintenant, dans certains concours d'entrée remarquables, comme celui de l'École normale supérieure, il y a pour le tronc commun une question en histoire ancienne et une en contemporaine, mais il n'y en a pas au Moyen-Âge. Mais il n'y en a pas en moderne non plus, n'est-ce pas? Tout cela m'a beaucoup choqué. Et en y réfléchissant, j'y vois différentes raisons. Je suis obligé de les énumérer, sinon ce serait là le sujet de la conférence, et ce n'en est que l'introduction. C'est un héritage de la monarchie absolue, il faut le dire, n'est-ce pas? Quelle que soit la référence que l'on puisse marquer pour ce régime, la France a été un pays de centralisation administrative, réaffirmé sous certains rois et réaffirmé naturellement d'une façon outrancière par le jacobinisme. Donc tout ce qui était local, régional, féodal en un mot, tout ce qui n'était pas centralisé, était le pire de tout, c'était l'anarchie, c'était naturellement tout à fait condamnable. Il y a cet aspect-là et nous en sommes encore là. C'est entendu, sauf quelquefois pour certains aspects d'un régionalisme qui n'a pas, sauf exception. Bon, il y a cela.
Il y a aussi le refus, et ça c'est beaucoup plus grave, je dirais même, non pas seulement le refus combattant, mais la non-compréhension de tout ce qui est spirituel. Naturellement, je devrais d'abord dire ici, et souvent je le dis, de ce qui est chrétien, mais c'est pas seulement ça, ça va au-delà même. Ça, non seulement on ne veut plus, c'est de l'anticléricalisme, ça a été très net, c'est de l'antireligieux, mais c'est même l'école, disons-le, du matérialisme historique, si vous voulez me faire prononcer le nom de marxiste, je veux bien, c'est exactement ça, qui ne voulait expliquer tout. L'école des annales a été cela. Donc, souvent j'ai été assez admiratif, puis ça a changé. Enfin, on ne peut pas comprendre l'homme spirituel, les soucis de l'homme du Moyen-Âge, et comme la religion médiévale était, comme vous le savez, celle de la religion des superstitions et la religion du populisme avec le culte des reliques et que sais-je encore, donc dans tous les milieux, y compris dans certains milieux religieux eux-mêmes, à l'heure actuelle, c'est naturellement condamnable. Il y a cela. Il y a aussi, je dirais, une filouterie, n'est-ce pas, une astuce à condamner, et j'y viendrai en deux ou trois moments tout à l'heure. Cette période, en dire beaucoup de mal, ça permet d'avaler mieux les pilules d'aujourd'hui. C'est assez ordinaire, ce genre de choses. En particulier, je ne peux pas m'empêcher de le dire dès maintenant, bien que ce sera, je voudrais que ce soit l'un des points forts de l'exposé, le paysan écrasé d'impôts. C'est un joli culot actuellement, n'est-ce pas, pour parler. Mais oui, mais ça fait partie de... Ça fait partie, regardez comme bon et tout. Et puis alors et surtout, et M. Labbé, cela entre un peu, je crois, là, dans les préoccupations, dans vos préoccupations ici de l'année, cette croyance au progrès et cette culpabilité que nous aurions par rapport à des siècles passés, n'est-ce pas, c'est cela. Il y a là le livre dont vous parlez, que j'ai voulu qu'il soit provocateur au début, puis personne n'a lu les premières phrases, et bien j'en ai pas entendu parler, mais je disais, nous sommes dans une société intellectuelle raciste. Nous sommes racistes non pas vis-à-vis de cultures d'outre-mer, ou quelle qu'elle soit, même ici ou là, non. Là, cela, nous avons, depuis Bernardin de Saint-Pierre, dans la Croix-Rousse, et bien avant peut-être, admis, j'ai un récit de pèlerinage du XVe siècle, où on dit que l'homme est partout l'homme, et qu'il est digne d'être admiré et aimé de la même façon. Non, nous sommes racistes vis-à-vis de nos aïeux, vis-à-vis des nôtres, n'est-ce pas? Alors là, oui, là c'est l'homme médiéval, n'est-ce pas? La femme médiévale, le regard médiéval, tous ces gens qui sont des sous-hommes en quelque sorte, sont pas tout à fait finis, n'est-ce pas? Heureusement que nous sommes là, nous terminons l'échelle du progrès, et là nous les coiffons d'un mépris souverain. Et puis nous les condamnons, parce que nous condamnons tous ceux qui les ont dirigés, qui ont été les seigneurs, qui ont été les rois, qui ont été les moines, les prêtres, n'est-ce pas, tous ces gens qui ont appesanti, et nous lançons contre eux des anathèmes, nous en sommes, oui, à dire, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, ça c'est la phrase que l'on trouve à tous les coins de journaux, et nous condamnons et nous demandons pardon, on en est là, on a demandé pardon pour ceci, pour cela, et puis on peut en trouver beaucoup. Alors, j'avais été heureux de lire cette phrase dans l'annonce de vos conférences. Cette histoire de demander pardon, vous m'excuserez, c'est un peu divagué, là pour moi, m'agace. M'agace énormément. Parce que, je dirais d'abord, sommes-nous fondés, sommes-nous obligés de porter le poids de ce qui a pu être? Mais surtout, ce qui est très grave, c'est que nous ne savons pas ce qui a été. C'est-à-dire que nous condamnons des gens sans avoir une documentation, sans avoir une certitude absolue, n'est-ce pas, et des gens qui ne sont pas là pour se défendre. Personne, n'est-ce pas, ne parlera leur nom, et alors on peut aller. Là, c'est très facile, très très commode, n'est-ce pas, on écrit tout ce que l'on veut, on tire sur sa pipe, là, je pense, je ne vois personne, mais c'est un collègue qui tire bien sur sa pipe à ce moment-là, n'est-ce pas, et... Donc, on se sent tellement supérieur que l'on peut demander pardon pour l'Église, pour la royauté, pour les seigneurs, pour Godefroy de Bouillon, je viens de le lire encore, n'est-ce pas? C'est affreux. Et il y a là quelque chose qui est affreux, et je crois, et c'est pourquoi je me suis permis, je suis citoyen comme les autres, et la vie actuelle m'intéresse, je me suis permis d'en parler devant vous, parce que nous en sommes là, et il y a une déviation des mentalités psychologiques qui est très grave. Nous avons admis pendant longtemps ce que l'on appelle la prescription. Et nous ne l'admettons plus. La preuve, c'est qu'on condamne la première croisade, n'est-ce pas? Cet oubli, cette prescription, pendant longtemps j'ai cru, et l'on dit généralement qu'il s'agit de réconciliation, c'est très noble, qu'il s'agit de pardon, c'est encore plus noble. Non, je dis c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave, c'est que si vous admettez une rétroactivité telle, n'est-ce pas, telle, c'est que vous faites juger des choses par des gens qui n'étaient pas nés à l'époque, et qui donc ne connaissent rien de ce qui s'est passé, et qui ne connaissent que par lui dire, par des slogans, par des campagnes de presse ou des campagnes d'histoire, c'est quelquefois à peu près la même chose. Enfin, ça, c'est une chose absolument entendue. Alors voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, ben, il me semble qu'il y avait là toute la graine qui, en suivant et se développant, permettait cette mauvaise vue de la civilisation médiévale, cet aveuglement, quelquefois, vous allez le voir, jusque dans les mots, dans le vocable, qui a été déformé, qui a été très très mal vu. Alors, le paysan. Je ferai deux réflexions en commençant, si vous voulez. On utilise deux mots, deux façons de parler des paysans, qui en elles-mêmes sont déjà porteuses d'erreurs. La masse paysanne, c'est tout ce que l'on dit, n'est-ce pas? C'est le système des classes. Il y a une classe paysanne, il y a une classe bourgeoise, il y a une classe noble, il y a une classe religieuse, alors ça, c'est autre chose, bien entendu. Non, ça, je casse ça tout de suite, j'aurai l'occasion de le faire dans le détail. La société paysanne est une société hiérarchisée à l'extrême, qui n'a aucun sens des solidarités sociales, ni financières, ni économiques entre elles. Il y a d'affreux pauvres, très pauvres, il y a de très riches parmi les paysans. Et il y a des paysans plus riches que le seigneur d'à côté. Ça, c'est une chose qu'il faut marquer. Donc déjà, parler de masse paysanne, c'est une intention, n'est-ce pas, subversive. C'est une intention de faire passer ce qui ne l'est pas. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre intention qui n'est pas pure non plus, mais qui peut s'expliquer parce que la recherche historique progresse avec, selon les documents que l'on a plus ou moins, et en France, nous ne sommes pas riches, hein, il faut le dire, en documents de certains genres, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Angleterre. Et nous avons eu les guerres de religion, nous avons eu la Convention, nous avons eu les troubles de toutes sortes. Notre documentation fondamentale sur la vie rurale est très pauvre par rapport à une autre que je connais très bien, qui est celle de l'Angleterre, n'est-ce pas? Il y a une très grande différence. Donc, l'on a utilisé ce qu'on avait. Et ce qu'on avait, c'est vrai, était essentiellement des archives seigneuriales. Si bien que vous ne trouverez dans les manuels, et quelquefois dans le libellé même des programmes d'université, en licence ou des programmes de concours nationaux, pour l'agrégation, j'y suis passé, vous n'avez pas la vie paysanne, vous n'avez pas la vie rurale, Georges Duby l'a fait, c'est vrai, mais d'autres, mais seigneurs et paysans. Il n'y a jamais le paysan sans le seigneur. C'est ça. Ça, c'est une erreur. Parce que le seigneur vit, et le paysan, il vit, et ils peuvent être séparés, c'est une des choses que je vais essayer de montrer. Alors, là, je vais donc parler du paysan, il y a une légende noire, nous la connaissons, cette légende noire, je ne vais pas la rougir à l'extrême, si vous pensez que je suis là pour vous dire qu'il n'y avait qu'un paradis sur terre, que des gens heureux, qu'il n'y a pas eu d'injustice sociale, et qu'il n'y a pas eu d'exaction, d'extorsion, et qu'il n'y a plus de mauvais hommes commandant des paysans. Non, ça je l'admets, mais pas plus qu'ailleurs, pas plus qu'en d'autres temps, et pas plus qu'en d'autres pays. C'est cela qu'il faut comprendre. Condamner une culture, une civilisation, sans entrer dans le détail de ce qui se produit, c'est une vue de l'esprit, c'est erreur de pamphlétaire, ce n'est pas d'honnête homme, ni d'historien, bien entendu. Alors, ce paysan, je serais quand même amené, je sais bien qu'il y a là, je ne dis pas une mauvaise foi à faire cela, mais un peu d'artifice, ou un peu de procédé d'exposition, je serais amené à le présenter en comparant un peu à l'époque actuelle. Il faut se dépêcher de le faire, n'est-ce pas? Parce que le paysan de l'époque actuelle, dépêchons-nous pour les connaître, n'est-ce pas? Sinon, ça m'est encore permis. Je dirais que ce qui caractérise l'homme de cette façon-là, aussi pauvre quelquefois soit-il, mais pas tous, bien entendu, je viens, c'est que l'on lui laisse sa dignité d'homme, son indépendance d'homme, et on lui laisse aussi la marche de sa destinée. Il en est responsable. Il n'est pas dans un carcan, il n'est pas dans un système totalitaire qui l'oblige à faire ceci ou cela. Il cultive comme il l'entend, il fait ce qu'il veut, et il peut le faire d'une façon convenable. Vous allez voir ce que je veux dire. D'abord, je dirais la faiblesse de l'État. C'est une des choses qui nous semble absolument ahurissante, n'est-ce pas? L'État, jusqu'au XVe siècle, est un État très faible, qui n'a pas de ressources financières, n'est-ce pas? Très peu. Donc, par conséquent, il n'y a pas ce carcan, il n'y a pas ce système inquisitorial des ressources de chacun, et tout se situe à un niveau qui est évidemment condamné de notre jour, mais qui est le niveau d'homme à homme, le niveau de maître, évidemment, de propriétaire, disons. Je préfère souvent propriétaire à seigneur, voisin, n'est-ce pas? Et ça, c'est une chose. L'État n'intervient pas, le roi n'intervient pas dans ces histoires-là. Et je dirais que, non pas les malheurs, si vous voulez, mais que les difficultés sociales sont nées avec l'intrusion de l'État très fort. Il n'y a pas de grande révolte sociale paysanne au Moyen-Âge. Il y en a très peu. Et la jacquerie, je viens d'écrire pour un tout petit article, oui, la jacquerie au temps d'Étienne Marcel, c'était une magouille, excusez-moi du mot, invraisemblable, et c'était le Charles de Navarre qui poussait derrière, et Étienne Marcel qui y allait aussi. Enfin, mais les grandes révoltes paysannes, celles du mécontentement, vraiment celles, les croquants, n'est-ce pas, qui ont levé, c'est au XVIe siècle. N'est-ce pas? C'est au moment où l'impôt royal est venu là, mettre la main là-dessus. Et donc, nous devons considérer, et même à regarder les choses, si vous voulez, sans philosopher, mais en réfléchissant, est-ce que un seigneur qu'on nous a présenté, alors ce seigneur, oui, parlons-en tout de suite, ce seigneur, n'est-ce pas, c'est le guerrier, c'est le batailleur, il est ignare comme tout, et son grand plaisir, c'est de chasser, et surtout ce qu'il aime, c'est d'amener ses chevaux et ses chiens sur les blés mûrs des paysans. Parce que ça, c'est merveilleux. Ben oui, même s'il perçoit une redevance de ses blés, de son intérêt, de bon, ça, on comprend pas très bien comment il va détruire ce qui est son revenu, n'est-ce pas, un jour ou l'autre. Or, c'est idiot, n'est-ce pas? Pardon. Ce n'est pas bien. Le seigneur, c'est ces petits bons hommes, ces seigneurs, la batailleur ignare et tout ça. L'était-il vraiment? J'en suis pas sûr. Mais de toute façon, qui appartient à la terre? Elle n'appartient pas à ces seigneurs rustres. Les trois quarts de la terre, ça appartient au roi, aux princes au pluriel, aux évêques, aux grosses communautés ecclésiastiques. Et vous les croyez des ignares, ceux-là, incapables de gérer convenablement? C'est eux qui ont la terre, n'est-ce pas? Dans la mesure où elle est seigneuriale. Ça, c'est à voir tout de suite, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, et on a fait une image du Seigneur qui est une image non pas d'Épinal, mais de vous allez dire Guignol, mais c'est vrai, je ne dois pas faire ça ici. Mais enfin, vous voyez, c'est complètement... Et ça marquait la mentalité, vous ne pouvez pas savoir. J'ai assisté, alors, des années passées, donc quand je dis 10 ans, ça doit être 15, enfin bon, une exposition au musée du Louvre, on avait acquis le portrait de Maladetta, n'est-ce pas, qui est de je sais plus qui, et puis c'est un condottiere, n'est-ce pas, alors ils avaient fait dans le petit carré de je ne sais où une exposition, et les dames conservatrices avaient très bien arrangé ça, puis il y avait une vitrine, il y avait les manuscrits, et puis même c'est ce Maladetta, seigneur de Rimini, n'est-ce pas, etc., avait écrit, et alors il y avait cette phrase très exacte, bien que condottiere, Simone Maladetta était un homme de lettres. Ça, c'est ahurissant.
ce n'est pas croyable. Dans l'esprit des gens, si vous faites la guerre, vous êtes un imbécile. Ça, c'est pas compliqué. Vous êtes un rustre. Et si vous êtes un seigneur, vous ne savez pas lire. Mais si, ça veut lire. Si, ça veut lire. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Bon. Alors, donc, il y a cette histoire-là. Et on nous a appris, en culotte courte, c'était un temps où on apprenait des choses à l'école, on nous a appris ce genre de choses, n'est-ce pas? Vous l'avez en tête tous, même les plus jeunes quand même, vous avez eu des parents, n'est-ce pas? Les seigneurs brigands. Ah, le seigneur brigand. Et puis le baron de Coucy, n'est-ce pas? Alors là, et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il ronçonnait les marchands. Oui. Il se mettait là, et puis il y avait un pont, et puis les marchands qui payaient, c'était pas un péage d'autoroute, c'était pas le pont de Tancarville, ni le pont de Normandie, n'est-ce pas, comme de nos jours, mais ils ronçonnaient quand même. Eh bien, ça s'est fait parce qu'on a eu un roi. C'était un peu lourd, il montait difficilement à cheval, il s'appelait Louis VI le Gros, n'est-ce pas? Il y est allé, le baron de Coucy, ben oui, ben, les marchands ont payé deux fois plus après, évidemment. Évidemment, parce que le roi, il avait des gens qui savaient rudement mieux compter, n'est-ce pas? Et qui étaient des gens qui rendaient compte, n'est-ce pas? Tandis que le seigneur, quand il est sur... Je ne veux pas adorer la chose trop, mais quand il est sur place, il se dit, attention, hein, qu'est-ce qu'il se faisait? Le péage, prenons l'exemple, il dit... Si je leur en demande beaucoup, ils passent à côté. Ils passaient par une autre route, on les voit faire des tours invraisemblables. Avec le roi, c'est pas possible, il les a tous. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est très net, voyez-vous. On a forgé une image anti-féodale. Je ne sais pas ce que ça donnerait s'il nous fallait vivre là, je ne dis pas, mais je constate l'erreur, disons pas la malhonnêteté, si vous voulez. L'erreur de l'image qui nous est imposée comme ça. Alors, finalement, l'impôt royal n'existe pas, n'est-ce pas? Ou très peu, très très peu. Les premiers moments d'impôt royal, et ceux qui ont fait ou lu un peu d'histoire sur cette période de la guerre de Cent Ans, vous savez, c'est pour payer la rançon de Jean le Bon, qui était chose d'énorme, donc on a commencé, n'est-ce pas, à payer. Alors, le reste. Alors, tout à l'heure, cela m'a échappé, mais je le reprends. Le paysan écrasé d'impôt. Comme je dis, il faut... Il faut avoir un certain aplomb, n'est-ce pas, pour écrire que nos instituteurs de la République, les hussards noirs, là, n'est-ce pas, alors que leur maître était en train, au Parlement, dans les ministères, de mettre en place des ponctions fiscales de plus en plus lourdes, et ils continuaient à dire que les paysans du moment. Alors, c'est une véritable supercherie, si vous voulez. Et là, du point de vue scientifique, je suis très étonné de voir, n'est-ce pas, que l'on n'ait pas relevé des choses aussi simples que celles au singulier pour le moment que je vais vous signaler. Quand vous prenez n'importe quel manuel, il sera tard ce soir, mais attendez demain, n'est-ce pas, vous l'aurez le malaisage n'importe lequel des impôts. Alors il y a toute une litanie, n'est-ce pas, et il y a la taille, il y a la main morte, il y a les péages, il y a ceci, il y a cela. Le droit de cuissage, bien entendu, n'est-ce pas, ça ne s'arrête pas. Et puis, alors, en premier lieu, le sens. Ah, le sens, c'est vrai. Qu'est-ce que le sens? C'est la redevance que le paysan tenancier paye à son propriétaire. J'ai été longtemps dans ma vie locataire, j'ai jamais pensé que mon loyer était un impôt. Jamais, n'est-ce pas? Ça, c'est très net. On a confondu, mais alors là, c'est une erreur de vocabulaire qui est atroce, n'est-ce pas? Alors que le sens, c'est ce qu'il y a de plus lourd, il n'y a pas de doute, enfin, quelquefois, on va voir, n'est-ce pas? Le sens n'est pas un impôt. Il y a des grandes seigneuries, laïques ou ecclésiastiques, où bien le seigneur, le propriétaire, je vais dire, cultive directement lui-même, quelquefois, avec la femme et les gosses, quand il n'est pas riche, ou avec des salariés, ou bien, n'est-ce pas, il en fait en disant, les bourgeois ont des métayers, etc. Puis j'ai oublié, bon, parce que la matière est riche, j'ai oublié tout à l'heure en vous disant que la propriété du sol, j'ai cité le roi, les princes, tout ça, et les bourgeois. À partir du 13e, ils achètent quantité de terres, et justement dans la région lyonnaise, c'est particulièrement net. Mais la thèse de Mme Lorsin là-dessus, n'est-ce pas, elle est tout à fait significative. Je l'ai lue, je la connais, et ils se sont partout achetés, n'est-ce pas, c'est certain. Donc vous avez des propriétaires bourgeois. Les seigneurs, si vous voulez, sont seigneurs aussi. Alors, ces gens-là, c'est le sens. Bon,
Déjà, le sens, ce n'est pas un impôt. C'est un loyer, il faut le dire. Et puis alors, ce loyer, quand même, j'essaye quand même de construire un plan, parce qu'il y a tellement à dire que je ne veux pas chevaucher, ce loyer, il peut être de deux natures. S'il est en nature, c'est-à-dire en redevance, n'est-ce pas, un sautier, deux sautiers, trois poulets, trois quarts de poulet, n'est-ce pas, fixé plus ou moins comme on veut, parce que, alors là, c'est merveilleux la métrologie, j'essaie d'évoquer ça pour vous, la métrologie, les mesures médiévales, c'est formidable. Ça, c'est pas Lyon, j'ai du côté de Strasbourg, on a un texte merveilleux où un chanoine, je crois, ou l'évêque lui-même, n'est-ce pas, il doit des redevances en blé. Alors, ben oui, pas du blé, alors des pains, oui, alors ils doivent fournir 3-4 pains. Et quelle grosseur, ben ils pèsent pas, mais ils disent, ben, l'évêque, il va se mettre là, et puis on lui mettra un pain, puis tout ce qui est sur les pieds, puis tout ce qui dépasse les genoux, il faut qu'il y ait de quoi nourrir 3-4 types dans la journée. Alors, c'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Donc, ce sont des redevances intéressantes, fixes, qui permettent sans aucun doute aux propriétaires de gagner de l'argent et de s'enrichir, qui représentent quelque chose, mais qui sont quelquefois un peu incertaines. On trouve des formules du genre comble mais non tassé. Alors, vous voyez, hein, qui est tassé, puis les autres qui ne tassaient pas, au contraire, des fois, vous mettez des pierres dans le fond. Moi, j'ai connu ça, hein, j'ai eu des parents qui tenaient une auberge dans la Sarthe, je vous assure, quand les fermières venaient avec leur motte de beurre, il y avait des pierres dans le fond, n'est-ce pas? On savait très bien, n'est-ce pas? Bon, alors, il y a ça. Mais le sens, généralement, c'est en monnaie, et non pas en pièces de monnaie, mais ce qu'on appelle en monnaie de compte. Alors, les dévaluations, là, à l'époque, je peux vous dire qu'à la fin, les sous, les deniers, oui, ils venaient, c'est une petite cérémonie, ils devaient se payer à boire, ou ils devaient faire un grand salut, puis ils disaient, là, tes trois sous, bon, ben, tout le monde était content, ça rapporte rien, ça. Donc, vous avez des sens en monnaie qui sont tombés complètement, et on ne peut pas réajuster. Jamais on a vu, même j'y viendrai tout à l'heure, de père en fils, de réajustement du sens, comme nous avons les réajustements des baux, n'est-ce pas, même pour le même locataire, quelquefois, ça n'existe pas. Donc voilà quand même un revenu qui existe, c'est entendu. Je le répète, je prends constamment la précaution de dire ça, je ne dis pas que tout est bien, je dis qu'on a triché, n'est-ce pas, qu'on a beaucoup triché en nous présentant les choses. Ensuite, on arrive, alors là, on pourrait être constaté. Ne parlons pas du péage, je viens d'en parler, ou un peu, n'est-ce pas? Bien entendu, le Seigneur exige. Il dit, bah oui, il entretient le chemin, il entretient les routes, les ponts et tout ça. Bon, il y a bien des lignes automobiles, il y a bien tout ce que l'on veut, bon, ça, à l'heure actuelle. Mais la dîme. Alors là aussi, ça tombe bien que je sois aujourd'hui parmi vous, parce que c'est précisément une des vôtres, professeur d'université, donc je reprends. Madame Lorsin, qui a étudié ses dîmes dans la région lyonnaise, ben alors la dîme est ecclésiastique. Elle est due à la paroisse, au clergé. Donc, généralement, au clergé séculier. Bon. Mais elle ne porte pas sur tout. Elle porte sur les blés, c'est sûr. Un peu sur les vignes, très peu, mais pas sur les arbres fruitiers, pas sur l'élevage, pas sur ces choses-là. Ça fait 10%. Pas toujours, hein. Quelquefois, elle est à 8, enfin, on ne va pas chicaner. Et puis, il s'arrange aussi pour payer, pour pas payer, n'est-ce pas, on en est un petit peu là. Et puis surtout, alors, je suis quand même étonné de voir que l'on crie si fort en disant, mettons l'un dans l'autre le revenu, c'est 10% sur ça, mais pas sur le reste, mettons 7 à 8% quand on paye bien. 7 à 8% de votre ressource, de votre revenu pour le denier du culte, c'est vrai. À une époque où, tout de même, on doit l'admettre, pour les populations, cela comptait énormément. Il suffit de regarder ce que c'était les confréries, les messes des morts, etc. N'est-ce pas, toutes ces choses. Les seigneurs, Robert Boutruche l'a écrit, se sont ruinés avec soi-disant. C'est une boutade de sa part, n'est-ce pas, avec les messes anniversaires. Donc 7 à 8% pour ça, mon jeu. Déjà, ce n'est pas tellement. Mais la dîme et l'Église, c'est aussi l'école, c'est aussi l'enseignement, et c'est aussi les hôpitaux. Alors, la sécurité sociale, vous savez combien elle coûte, bien sûr. Vous me direz les meilleurs, peut-être. Oui. Bon. Mais enfin, vous avez tout ça pour 7 à 8%. Vous avez ces œuvres sociales, n'est-ce pas, de charité, d'enseignement, et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas d'école à l'époque. Alors là, il y en a partout. Et partout. Et nous en avons des preuves. On a des réunions des gens, alors c'est à Paris, bien entendu, mais même en province. Vous allez dans le fond, je ne connais pas votre région, bravo, mais dans le fond de la Bretagne, vous allez et vous voyez, vous vous dites, ah, naturellement, ces gens étaient obscurs, et tout ça pour leur expliquer la religion, il fallait des peintures. Vous avez des peintures naïves, n'est-ce pas? Bon, c'est ça, alors vous avez tout ça, puis alors, justement, il y a des déviations, il y a la danse de Salomé, c'est pas très, très, très édifiant, sur le plan religieux, bien sûr, un peu acrobatique, mais vous en avez d'autres aussi. Et vous avez les danses macabres, par exemple, ou le lit des trois morts ou des trois vifs, c'est un peu compliqué, ça. Alors, pour expliquer, il y a les légendes. Écrit en trois lignes à chaque fois. Mais qui est-ce qui lit ça? C'est pas seulement le prêtre tout seul, c'est tous les fidèles. Ils savent lire, sinon on ne serait pas donné le mal de faire des lettres. Et donc, toute peinture religieuse de vie de saint, très généralement, est assortie de sortes de petites bandes explicatives, n'est-ce pas? Assez souvent, en tout cas. Donc, voyez-vous, je répète, l'Église, les prières, les funérailles, les nombreuses prières après la mort, l'école et les hôpitaux, les hospices, les vieux, tout ça pour 7 à 8%, bon, peut-être qu'ils s'y retrouvaient, mais qu'on vienne, qu'on ne nous cache pas ces choses-là, c'est pas qu'on en parle, et puis c'est tout, et à ce moment-là, on a des éléments un peu différents pour en traiter. Et alors, au total, j'en arriverai à ceci, n'est-ce pas, c'est à dire que le poids, certainement, si vous voulez, je ne dis pas qu'il est faible tellement à l'époque, mais il est faible par rapport à ce qui sera plus tard. Il n'a fait qu'augmenter au cours des siècles. C'est quand même une chose, n'est-ce pas, qu'il faut souligner. Le poids de l'impôt n'a fait qu'augmenter au cours des siècles, sans aucun doute. Et en plus, il y a une chose. Voyez-vous, l'histoire, je plaide pour mes saints, si je puis dire, pour mon métier. L'histoire médiévale est difficile. Je disais tout à l'heure que nous n'avions pas beaucoup de documents. Il n'en aurait pas resté énormément. Et il y en a beaucoup qui ont disparu. Et quand on en trouve un, ben il faut, ça va me permettre quelques anecdotes, et j'espère ne pas vous ennuyer trop avec cela, il faut vraiment le creuser et savoir ce qu'il est. On s'est laissé faire par beaucoup de choses. Je prends un exemple, j'ai eu des exemples de mes étudiants, de maîtrise ou de thèse. Ça n'a pas d'abord le bailliage de Caen. Alors on prend Caen, il y a les impôts, et alors ils mettent les exemptés. Ils mettent un tel noble, exempté. C'est vrai, exempté de l'impôt royal. N'est-ce pas? À un moment, et c'était l'impôt en particulier pour la levée des troupes au moment de la guerre de 30 ans, ils étaient exemptés de ce qu'ils devaient être. Bon, ça c'était, ils fournissaient eux-mêmes. Et puis alors, cette jeune femme qui faisait ça, on a regardé ça, c'est quand même du côté de Bayeux, là, trois castes un homme, pas davantage, et il n'y a pas les Tarcourt, il n'y a pas ces grandes familles. Et bien, voilà un document. Nous voulons l'utiliser d'un point de vue statistique, mais ce n'est pas vrai. Le bonhomme qui a écrit, il a marqué que les nobles contestables, si vous voulez, tous les autres, ça aurait été de leur faire injure que de mettre qu'ils étaient exemptés parce que ça faisait des générations qu'ils l'étaient. Voyez-vous, un document est très difficile à manier, très très difficile à manier. Je me souviens de l'histoire qui est arrivée à tous mes collègues bordelais, et je crois que Boutruche était bien dans le coup, mais enfin pas tellement, puis les Anglais, je crois qu'ils savaient que ces Bordelais expédiaient du vin en Angleterre, c'était pas croyable, alors on fait des statistiques, tant de vin pour Southampton, tant de vin pour Londres, puis alors il y avait une consommation de vin formidable pour Hull, la ville de Hull. N'est-ce pas, qui est sur la côte est de l'Angleterre, c'était des pêcheurs, mais enfin quand même, et pourquoi tant de vin de Bordeaux? Alors, il y a eu toutes les histoires, est-ce qu'ils réexportaient vers les Flandres? C'est en ça, c'est bien possible. Alors, oui, ils exportent vers les Flandres, parce que, comme les pays de la contrebande et tout ça, jusqu'à ce qu'une dame anglaise que j'ai connue, qui n'était pas drôle dans le travail, il faut dire, elle y est allée voir le plus près les archives de Bordeaux, elle a vu que, tout simplement, ce nom revenait constamment parce que le percepteur de la taxe anglaise s'appelait Robert Hull. Et donc, il avait confondu le
Eul avec la ville, n'est-ce pas? C'est comme le Pirée, ou à peu près.
Et alors, bon, il y a eu des études sérieuses.
Et alors, pour nous, revenons à l'impôt. Il y a deux types de registres de l'impôt. Il y a celui, je ne sais pas si ça existe encore à l'heure actuelle, il y a celui de tous les gens qui doivent payer. Bon, ça, puis avec leur nom, tout ça, alors, la taxe, c'est tout, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le registre de tous ceux qui ont payé. C'est pas le même. Alors, on n'a pas fait attention à ça. Il y a, en bien, n'est-ce pas? Il y a, si vous voulez, celui qui serait fait actuellement par l'inspecteur des impôts, et celui qui serait fait par le trésorier, n'est-ce pas? C'est différent. Et alors, j'ai eu des comme, généralement, ils ne payent pas si volontiers que ça, je vais vous le dire. Ils arrangent que pour pas trop payer. C'est très difficile. Alors, on a eu des études démographiques, on voyait des chutes de population, n'est-ce pas? En 2 ans, il y avait des mortalités abominables. Ou au contraire, ça remontait d'un seul coup parce qu'on tombait sur l'autre type de registre. J'espère que vous me suivez, là c'est un peu plus technique. Mais c'est pour vous dire qu'on n'y arrive pas, n'est-ce pas? Et l'on a, alors nous, on les a pas en France. On avait ces deux types-là, on n'avait pas fait attention. Mais les Anglais, ils en ont un troisième registre. Car quand même, les seigneurs ne savaient pas tout faire, les propriétaires, à tous les coups, ce qu'ils appelaient le registre des arriérages, c'est-à-dire des non-payés. Ah oh, ben ça durerait 4-5 ans, là, qu'ils mourraient avant. Et est-ce que vous allez confisquer la vache ou le machin en disant, ben oui, à ce moment-là, il affiche le camp ailleurs, et il ne paiera rien du tout, alors autant qu'il soit là quand même, qu'il paye un petit peu. Vous voyez, il y a un flou dans la perception de l'impôt que, il me semble, enfin tout au moins, moi, parfait citoyen, vous imaginez, je conçois ça assez mal. Et chaque année, vers la fin de février, j'y repense. Et vous aussi, naturellement. Mais pire que ce que vous croyez, Pascal, je fais pas ça de bon gré, ça. J'avoue que, non, ça, c'est vraiment, ça, je suis pas heureux. Et, c'est toujours le dernier jour, et c'est toujours un dimanche. Et alors le dimanche, c'est pas très loin de chez moi, puis enfin c'est pas désagréable, alors je vais porter à l'hôtel des impôts, et alors il y a la queue, il y a 200 personnes, et on va en procession, bientôt on aura une fanfare, parce qu'on est content, on va porter sa petite enveloppe, n'est-ce pas? Eh bien essayez de faire ça avec les gens du Moyen-Âge, ça marche pas, ça marche pas du tout. Quand vous venez leur réclamer de l'impôt, ils sont pas du tout contents. Ils n'aiment pas payer ça. C'est comme ça. Là, ils n'aiment pas. Et finalement, ils arrivent. Donc, voyez-vous, je n'ai pas, je crois, beaucoup fait la légende rose, j'ai exagéré. Je répète, mon intention, c'est de dire que l'on a, présentant ces images de l'époque, on les a déformées et on a même pris des termes les uns pour les autres. Ce que je voudrais dire maintenant, là ça serait plus rapide, et c'est en conclusion de cette première partie sur la dignité, n'est-ce pas, et le peu d'État, c'est qu'il n'y a pas non plus, pensez-y, là aussi, de dirigisme. Très peu. Le paysan doit vivre, il doit survivre, ce n'est pas facile. Il a de petits instruments agraires, ça coûte très très cher. Ça coûte très cher une charrue, n'est-ce pas, c'est pour forger. Les espèces végétales supportent mal les mauvaises saisons, les récoltes, donc il survit. Mais il est responsable de sa survie. Il en est responsable. On ne vient pas lui dire, toi tu fais du porc, toi tu fais du poulet, toi tu fais ça, toi tu vas mettre en jachère. Ben, il n'est pas question de ça. Ça. Il a cette dignité de producteur. Il n'attend pas qu'on vienne lui dicter ce qu'il doit faire. Il connaît sa terre, il voit ses voisins, il voit le marché, donc il se dit, moi je vais m'en tirer comme ça. Il n'attend pas que des instances supérieures, irresponsables, qui si ça va pas, on ne sait pas qui c'est, n'est-ce pas, si jamais il y avait là un maître du village qui lui dit, toi tu vas me planter, pas du maïs, si on n'avait pas, tu vas me planter ça, et puis que ça crève, et puis passe un mauvais quart d'heure, vous comprenez, le lendemain, enfin en fin de saison. Il est absolument, c'est ça que je veux dire quand je parle de dignité de l'homme. C'est-à-dire qu'on lui donne son destin, n'est-ce pas, en main, parce qu'on ne fait pas de ponction considérable sur les fruits de son travail, je viens de le dire, et deuxièmement, parce qu'on le laisse assumer, n'est-ce pas, toute la suite,
de son destin en se disant, je vais planter ça, je vais fatiguer, je vais travailler, et puis je le vendrai tel prix, on ne fixe pas le prix. Ça n'existe pas, ces histoires de prix fixé, prix plancher, prix minimum. Puis alors, quant aux subventions, là, alors, naturellement, il vaudrait mieux ne pas en parler. Ceci dit, il y a alors quand même quelque chose qui existe et qui est intéressant à souligner, c'est la force dans cet individualisme quand même, cette dignité humaine, c'est quand même la force de la communauté villageoise. La communauté villageoise est forte. Et ce que j'ai mis dans ce livre, et l'un de mes collègues avec qui nous avions eu pendant longtemps des rapports corrects sans plus, n'est-ce pas, car Zidane m'en a félicité, et nous ne sommes pas réconciliés, mais conciliés, vous avez en tête une chose. Et ça, je crois qu'il faut y penser. Vous avez encore en tête le mouvement communal. Hein? La bourgeoisie, le mouvement communal, l'indépendance, des slogans, des fariboles, du genre l'air de la ville rend libre, des choses pareilles. Et puis, on vous dit, regardez les chartes, n'est-ce pas, les chartes communales, les chartes, c'est les villes qui se sont affranchies, n'est-ce pas, du Seigneur. Ah bon. Et j'ai appris ça étant gosse. J'ai les copiés quand j'étais étudiant du sens. Je l'ai enseigné un certain nombre d'années aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis, au moment de faire ce livre, hein, enfin, quelques années, temps avant, j'ai dit, mais ces chartes communales, il n'y en a pas tellement, qu'elles sont connues, c'est Loris, c'est un bled, n'est-ce pas? De Champagne, je crois, de Picardie, c'est Beaumont-le-Roger, c'est pareil, c'est des trucs de 200 habitants. C'est ça la charte de urbaine? Les chartes d'émancipation, d'autogouvernement, nous dirions, hein, d'auto-administration, sont des chartes paysannes. Elles ne sont pas urbaines. N'est-ce pas ? Donc, ce qui va dans le sens de ce que j'entends de vous dire, c'est que la société paysanne est au moins aussi libre, au moins aussi capable de se défendre et de s'affirmer face aux maîtres que la société urbaine. C'est eux les premiers qui ont vu, ça a été très très bien étudié pour l'Artois, par M. Gérard Sivéry, il faut lui expliquer toutes ces associations communales, l'aide aux pauvres, le budget, toutes ces choses-là. Alors, ceci, n'est-ce pas, est naturellement, bien entendu, à souligner. Alors, ils sont très rassemblés, et naturellement, c'est eux qui décident quand même d'un certain calendrier des travaux, et que nous connaissons assez peu maintenant, parce que depuis la guerre, moi j'ai vu ça... mûrir le problème du remembrement rural, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les pays d'open field, au moins, n'est-ce pas, chacun possédait un petit coin, n'est-ce pas, par la suite des héritages, puis Disney, là, ils s'accrochaient à ça, et puis, quand on a voulu les remembrer, même là, en 1950, ils n'ont pas aimé tellement. Mais à l'époque, donc, comme tout est imbriqué, il faut des calendriers. Donc, il y a une organisation, et ça c'est très bien vu par deux ou trois de mes jeunes collègues, hein, deux ou trois organisations paysannes qui disent, bah oui, on ne peut pas dire on va moissonner là, et il faut que tout le monde moissonne ensemble, sinon on passe à travers les champs pour qui sont déjà moissonnés, qui ne sont pas encore moissonnés. Et c'est ce qu'on appelle le calendrier du ban, B-A-N, hein, des formes du droit de ban. Et le Seigneur s'y soumet, à moins que ce soit le prince ou l'abbé Saint-Germain-des-Prés, mais même l'abbé de Maroilles, là, que l'on connaît, n'est-ce pas, dans le nord, l'Artois, là, il vient, et son intendant vient, puis il discute avec les paysans, puis une fois que c'est décidé, ben, c'est le droit de vent pour tout le monde. Alors ça, c'est ma première partie, ou à peu près, n'est-ce pas, je dirais, l'autorité individuelle, la dignité individuelle. J'en arrive maintenant à autre chose qui me paraît également relativement important. C'est la propriété privée, le degré des richesses. Tout à l'heure, je l'ai laissé entendre, n'est-ce pas, il y a une hiérarchie et il y a une erreur à parler de seigneurs et de paysans. Autrement dit, je suis persuadé que ceux qui ont quitté le lycée, même avant, avec Antès et Manuel, il n'y a pas de propriété paysanne. Il n'y a que des terres louées à des paysans que nous appelons des tenues. Or, 1947, je l'ai vérifié hier, Robert Boutruche, le Bordelais, vous voyez que j'étais lettre, si je puis dire, je lui ai succédé à la Sorbonne, a écrit un livre entier qui s'appelle « La propriété paysanne dans le Bordelais, l'ALE, A-2-L-E-U, l'ALE, c'est la propriété du paysan qui ne dépend de personne. Transmis de père en fils, il vend, il loue, il faut ce qu'il fait, ce qu'il veut. Le seigneur n'a rien à voir là-dedans que la justice, lorsque ce n'est pas la justice royale. N'est-ce pas ? Mais sur le plan, alors, si je suis, ce qui est le cas, propriétaire de ma maison, actuellement, c'est pas parce que la police municipale vient me dire que je ne vais pas rentrer des poubelles que je vais me trouver exploité, n'est-ce pas ? Ma maison est à moi. Or, l'ALE est au paysan. Et c'est à l'eux, ben, personne n'a jamais voulu travailler là-dessus. Jusque Boutruche a fait un livre, pendant 20 ans, 30 ans, et de tout jeune, s'y mettent maintenant. Il y a une raison. Il y a une raison, c'est que nous travaillons avec des archives, n'est-ce pas ? Et qu'il est plus facile, malgré tout, de trouver des archives seigneuriales, et surtout des archives ecclésiastiques, qui sont mieux conservées, que des archives paysannes, bien entendu. Dans la mesure où ils écrivaient, car il y a des faux paysans qui sont conservés aux archives de France, ça on le sait, mais enfin, on n'a pas beaucoup de documents. Donc, on a trouvé de la trace des alleux que par certains documents particuliers qui aussi sont gardés, c'est les testaments. Par les testaments, et on voit, ils font plus ou moins, et surtout un testament encore, quelquefois, je lève l'ensemble de mes biens, ben oui, mais alors ce qui est beaucoup plus riche, comme résultat que le testament, c'est l'inventaire après décès quand il y a contestation. Parce que là, alors, tout se passe. Et là, nous savons qu'il y a des alleux. Nous le savons. Et donc, par conséquent, ce que nous voyons, c'est que tout ceci, ça peut se vendre, ça peut s'acheter, n'est-ce pas ? Ça peut se rassembler. Et cela va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, au début, c'est qu'il y a effectivement de grandes fortunes paysannes. Il y a des gens riches. Qui sont au début souvent pas de vrais paysans, de forgerons, n'est-ce pas, qui est très important, qui gagne beaucoup d'argent. Vous n'avez qu'à regarder d'ailleurs dans la formation des noms de famille, n'est-ce pas, c'est le mot de forgeron qui s'est imposé presque partout. Smith en anglais, Schmidt, Fèvre, Lefèvre chez nous, n'est-ce pas, ça prouve que cette profession était privilégiée. Le meunier, forgeron, le meunier, le receveur royal ou plutôt seigneurial, des gens comme ça, n'est-ce pas ? Et puis aussi les paysans qui travaillaient mieux que les autres. Et donc, voilà, ce qui est ennuyeux à dire, n'est-ce pas, c'est que certains s'en tiraient beaucoup mieux que d'autres, avaient défriché davantage, avaient su trouver la culture qui permettait de vendre mieux, ou une race d'animaux, de les soigner. Enfin, il y a une forte hiérarchie paysanne, ceci grâce à l'ALE. Et alors là, je voudrais que, si vous voulez, nous ne quittions pas, sans que vous ayez bien ça à l'esprit, c'est une nouveauté, c'est en train, dans la recherche historique, de se développer, il y a une propriété paysanne affranchie de toute taxe économique. Je ne parle pas de la du droit de juridiction, du droit de police, de ces choses-là, bien entendu, qui ont toujours existé et qui existent encore. Et puis surtout, je vais vous étonner, je suis là pour ça, n'est-ce pas, à propos de ces tenures. L'idée, bon, il faut bien enseigner aux enfants, et puis on a souvent intérêt à ce que l'on reste longtemps enfant de ce point de vue-là, n'est-ce pas, qu'on n'aille pas chercher trop loin. Et l'idée que l'on nous a faite, le seigneur a un grand domaine, dans un coin il cultive tout seul, tout le reste est des tenures. C'est toujours à lui, il est toujours propriétaire. Et l'autre est un locataire, je viens de le dire tout à l'heure. Oui, mais l'idée de locataire n'est pas tout à fait ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle est très, il est très, très, très différente. Très. D'abord, je vous ai dit que certaines redevances n'étaient pas réajustables. Et puis surtout, cette tenure paysanne, elle est héréditaire. Pas si facile à l'heure actuelle pour un locataire, bon, c'est pas. Elle est héréditaire. Elle est transmise donc de père en fils, n'est-ce pas, sans réajustement et avec de très simples droits de succession, n'est-ce pas. Vous savez ce qu'ils sont, je pense déjà, n'est-ce pas. Vous voyez, bon, Ensuite, alors, ce qui est merveilleux, mais là, mes collègues, un jour, je leur ai sorti ça. Ils m'ont pas contredit, mais ça les... On dit oui, c'est vrai, mais on n'y pense pas volontiers. Je suis paysan. Je suis tenancier. Je paye mon sens. Bon, puis je dis, après tout, moi, je m'en vais ailleurs. Je vais vendre ma tenure. C'est pas le seigneur qui vend, c'est moi. Le prix de vente, c'est moi qui vais l'empêcher. Je vais empocher l'argent de la vente parce que c'était exploité par moi. Donc, quelqu'un d'autre va avoir le droit de l'exploiter. Alors, je vais payer un vingtième du prix de la vente au seigneur, n'est-ce pas? Le droit de lot et de vente, c'est un vingtième, généralement. C'est comme ça. Et puis, alors, même, si je me dis, tiens, ben, c'est surtout, évidemment, pour les paysans, c'est assez rare, mais ça dépend. Supposer que j'ai plusieurs tenures, puis que j'en ai une qui soit bien située. C'est surtout ce qui est arrivé dans les grandes villes. Mais même dans un grand village, d'un seul coup, j'ai là une tenure qui est bien, là, au carrefour des routes. Je me dis, moi, j'ai plus de tenue. Ben, la vendre, oh non, non. Je vais la sous-louer. Et je la sous-loue au prix actuel, c'est-à-dire 3 fois, 4 fois plus cher que le sens. Alors, je continue à payer un sou au seigneur, puis en tout, en toucher 5 ou 6 de l'autre côté. Ça, c'est commun. C'est tous les ans que ça se produit, vous comprenez, ces ventes et ces sous-locations au profit du paysan tenancier. Il faut quand même dire les choses comme cela et voir qu'il y a là, vous comprenez bien, une forme de propriété bâtarde qui n'est pas totale, puisqu'il y a quand même un seigneur derrière, un propriétaire, seigneur ou bourgeois, hein, mais quand même. Donc voyez-vous, là, vous m'excuserez d'être un peu technique, vous êtes beaucoup plus direct maintenant. Mais cela valait la peine d'être souligné à quel point, n'est-ce pas, le paysan tenancier tire quand même, et c'est comme ça que certains s'enrichissent, évidemment. Et puis alors, il y a quand même une chose qui est très très frappante, et là, j'ai l'exemple précis, j'ai recopié les chiffres, le respect de cette propriété privée. C'est une chose, à l'époque du TGV, des IC, des AC, des ET, des je ne sais pas quoi, des carrefours, à l'époque des expropriations si faciles, n'est-ce pas, semble-t-il, nous sommes garantis, nous dit-on. Bon, ben, ça ne m'est jamais tombé sur la tête, donc j'espère. Mais enfin, il paraît que ce n'est pas si gratifiant que cela, n'est-ce pas, une expropriation, et que ça se fait assez vite. On voit la grande différence de certaines civilisations. Regardez le TGV Paris-Londres. Il fait 300 à l'heure en France, mais pas en Angleterre. Ils n'ont pas pu exproprier comme ils ont voulu. Ben, ils ont résisté, les Anglais. Ça viendra, ils ont trouvé, mais enfin, il faut 3-4 ans de plus. Ben, il y a une grande différence. À cette époque-là, vous n'expropriez pas. Ça n'existe pas. Et ça je peux vous le dire, ça n'est pas vrai. Le paysan ou l'artisan en ville, et vous m'excuserez, j'ai surtout là un exemple typique de la ville, est propriétaire, il n'y a rien à faire, il s'accroche à ça, mon père, mon grand-père, etc., vous n'y touchez pas, vous pouvez toujours essayer, n'est-ce pas? Et en particulier, nous avons beaucoup de textes, c'est pour la région de Versailles, là où j'habite, donc je vais faire un mémoire de maîtrise là-dessus, c'est très net, il y a eu la guerre de 100 ans. Il y a eu la guerre de 100 ans, et je vous assure qu'il y a eu du dégât. C'était très grave. Des champs en friche, il y a un village, il n'y a plus de séminaire, il y a une église, il n'y a plus de curé, il n'y a plus rien. Et le Seigneur revient, les paysans fuient, ils sont morts, il y a eu les bandits, tout ça. Et il faut 10 ans d'enquête, avant que le Seigneur, mais propriétaire, je devrais dire, n'ait le droit de relouer la tenure. 10 ans avant de chercher, mais pas si toutefois il ne serait pas fui quelque part, il ne va y avoir un petit neveu ou une petite nièce ou quelqu'un qui va réclamer. Et surtout, alors, ce droit, ce fait de tirer la propriété à soi, de ne pas les toucher, a été, si vous voulez, très important dans, m'excuserai ici, mais je crois que c'est l'illustration urbaine d'un phénomène social général, a été très fort dans les villes. On vous dit, la ville française, la ville médiévale est anarchique, n'est-ce pas? En désordre, à son mauvais d'abord, ouais, il y avait beaucoup de porcs, il n'y avait pas de chiens, hein,
Il n'y a pas de chien, non?
Et il est pauvre. Bon, il y a tout ça. C'est un archer, il n'y a pas de belle place et tout. Et vous savez que la première place à Paris a été construite sous Henri IV, ou à peu près. Et on ne peut pas. On ne peut pas, parce que c'est imbriqué. Il y avait le tissu romain, plus ou moins. Alors, il y a eu des usurpations, ces sortes de souks qui se sont développées, qui ont discontinué le tissu. Puis après, même si une municipalité ou un prince ou un roi voulait faire des belles places, eh ben, il dit non, il n'y a rien à faire, c'est à moi, ça ne vous passerait pas là. Et puis, c'est pas commode de faire passer une rue, n'est-ce pas, dans un clan familial. Ça, ils n'aiment pas du tout. Alors, en Italie, ça s'est fait. Ou excusez-moi, c'est un de mes lobbyistes, je ne parle jamais que d'Italie, mais enfin, ça sera la seule fois ce soir. En Italie, ça s'est fait, on a construit des belles places, partout, hein. 1294, exactement, la première importante à Bologne. Et celle de Florence, elle est encore toute biscornue, mais regardez, si il y aura ce... parce qu'on n'a pas pu. Et alors, où a-t-on pu faire des places en Italie? Parce que là, sur les propriétés du parti vaincu. Guelfes, Gibelins, guerre à outrance entre les partis, on tue, on chasse, on confisque, on laisse en friche pendant un certain temps, on sème le sel comme pour Carthage, et puis après on construit. Et c'est comme ça qu'on peut faire une place. On leur détruit leurs palais, leurs églises. En France, non. Il n'y a pas eu ces guerres de partis, ou très peu. C'est pas Armagnac et Bourguignon, c'est autre chose. C'est pas. Donc on n'a pas dans les villes ces choses-là. Donc il faut, à un certain moment, qu'une monarchie beaucoup plus forte, plus absolue, soit capable d'imposer l'expropriation. Ça a été l'ère moderne, ce n'est pas médiéval. Il ne faut pas qualifier tout de médiéval. Hein. Il y a avant-hier dans le journal, je disais que la Saint-Barthélemy, c'était médiéval. Ça va quand même, c'est un choc, n'est-ce pas, du point de vue chronologique. Mais non, ça c'est vrai, hein, tu n'es pas n'importe quel journal pseudo-financier. Bon, je vais leur pardonner. Mais, donc, voilà une chose, on ne peut pas, je vais vous donner un exemple, on ne peut pas exproprier. L'homme est propriétaire de sa terre, n'est-ce pas? Il y a une dignité qui est attachée à ça, on n'y touche pas. Et l'exemple, eh bien l'exemple, ce sont les palais royaux de Paris. Alors le palais de la cité existait, c'est trop petit, ben on est allé ailleurs. Parce que c'est trop petit, on n'a pas exproprié, d'autant plus à côté, alors c'était Notre-Dame, et surtout c'était les étudiants. Alors, bon, et puis Saint-Germain aussi, bon. Alors on n'y touche pas. Il est allé au Louvre, en dehors, complètement en dehors de Paris, n'est-ce pas? Là, il a pu construire son Louvre. Puis après, quand il a voulu construire l'hôtel Saint-Paul, qui est très connu, n'est-ce pas, ça de la Bastille, ah ben ça devenait difficile, parce que là, c'était peuplé. Alors il a fait des pavillons, n'est-ce pas, presque à l'oriental, une sorte de sérail, un pour la reine, un pour le roi, un pour le premier dauphin, et avec des galeries, des choses, puis ça durait un temps fou. Et alors, en particulier, j'ai un exemple ici, vous voyez que je ne perds pas le fil de mon affaire, les princes, ça c'est classique, comme les abbés aussi, près des métropoles, près des archevêques, les abbés de province construisent un hôtel pour être sur place, n'est-ce pas, pour vérifier ce qui se passe, porter les suppliques, et puis pour les princes, il faut faire un peu la cour au roi, puis ils sont appelés au conseil, n'est-ce pas. Le conseil royal, c'est le conseil des légistes dans une partie, sous Charles V, mais enfin, il y a quand même le duc d'Orléans, le duc de Bourgogne, il y a tout ça. Et alors, autour du Louvre, on a commencé à construire des hôtels princiers. Mais il y avait là, entre, à l'intérieur, n'est-ce pas, c'est-à-dire à l'intérieur de l'enceinte de Charles V, il y avait là un enchevêtrement de propriétés et de droits de juridiction invraisemblables, parce que avec le système dont je vous ai parlé, n'est-ce pas, des locations, sous-locations, relocations, droit de justice ici, droit partagé, et extéritorialité ici, c'était un machin, alors pas fini. Alors, j'ai fait faire un mémoire de maîtrise sur le palais qu'on appelait l'hôtel du Petit Bourbon. Pourquoi petit? Le grand, on l'a pas trouvé. Bon, ça ne sert à rien. Hôtel du Petit Bourbon, n'est-ce pas, le long de la Seine, près du Louvre. Eh bien, les ducs de Bourbon, c'est pas rien. Les ducs de Bourbon, c'est pas Bourgogne, c'est entendu, mais ça c'est quand même Moulins, il y a quand même, n'est-ce pas, du répondant, et puis ils pouvaient quand même à Paris. Et je ne triche pas, les six des copiés raisonnablement. Il a fallu trois générations de ducs pour en venir à bout, arriver à avoir un carré, un beau carré, hein, mais un carré convenable. Ils ont commencé en 1300, En 1300, ils ont commencé à racheter. Alors, ils achetaient. Ils ne pouvaient pas exproprier. Ils achetaient. Ils attendaient qu'il y en ait un qui meure, ou alors qu'il ait fait une petite grâce au roi. Alors là, oui, on pouvait quand même, n'est-ce pas, faire un petit quelque chose, bien entendu. Ou ils échangeaient. Ils échangeaient. Ils achetaient des droits de justice. Alors, quand ils avaient acheté un bout de terrain, donc ils disaient, ah, non, mais moi, j'ai un sens là-dessus. Alors, il fallait acheter le sens. Donc, ils disaient, oui, mais moi, j'ai aussi. Bon, alors, un droit de passage. Alors, bien, tout ça. Au total, entre 1300 et 1404, les trois ducs de Bourgogne, grand-père, père et fils, ont signé plus de 300 contrats pour faire leur palais. N'est-ce pas? Vous voyez l'opéra Bastille, je ne sais quoi là, hein, en train de vouloir construire et de se dire je signe 300, j'attends trois générations avant de finir, et je signe 300 contrats. J'ai voulu, n'est-ce pas, souligner cela de très près pour montrer, n'est-ce pas, à quel point l'on tient l'homme, si vous voulez, en estime, et que ce n'est que peu à peu que cette oppression, le mot est fort, je le pense, mais je ne dois pas le dire, alors disons que cette intervention sur l'homme pour le déposséder de son destin, en quelque sorte, le déposséder de ses héritages, ça ne s'est fait que peu à peu, et ne disons pas que c'est à cette période-là. Enfin, je voudrais conclure, voilà, encore 5 à 10 minutes peut-être, je voudrais conclure sur une chose qui va, vous m'excuserez, quitter le monde paysan, et peut-être pas quand même, mais nous sommes parlé de notre pays par rapport à d'autres. Je ne suis pas tellement, enfin, je suis maintenant, oui, spécialiste de la France, ayant enseigné tant d'années à Paris, mais j'ai fait ma thèse sur l'Italie, j'ai vécu en Italie, j'ai plus de livres italiens que français, donc je ne suis pas anti-italien, au contraire, j'aurais voulu y vivre longtemps après ma thèse. Mais il n'empêche qu'il y a des choses que je tiens à souligner, et de la même façon que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une erreur, une tricherie, une mauvaise volonté à présenter ce Moyen-Âge rural oppressé, il y a eu aussi une facilité et une erreur à opposer notre pays royal, paysan et encore un peu seigneurial au pays des villes italiennes, pays de la liberté, n'est-ce pas, de la paix et de tout ça. On a écrit, mes collègues de la génération d'avant moi, personne d'entre vous n'a pu les connaître, mais moi oui, écrivait des livres facilement sur les républiques marchandes d'Italie. Les républiques marchandes. Ce qui était là encore sur le sens, car c'est la respublica, c'est le mot italien ou latin qui n'a rien à voir avec république, n'est-ce pas? Ça se traduit au mot à mot, mais c'est ridicule. Ou alors, les républiques bourgeoises, n'est-ce pas? Vous aviez là, ça plaisait. Une république bourgeoise, parce qu'il n'y avait pas de féodaux. Ou alors, à la limite, on n'était pas aux démocraties, mais c'est tout juste, hein. On n'était pas loin de la démocratie. Mais on était dans la République, et puis c'était des marchands. C'était des marchands avec des robes, et puis tout ça, des gens qui savaient compter, puis l'intelligent, puis il y avait des belles peintures, et puis ils ne faisaient jamais la guerre. Jamais. Non. Mais, quand vous allez encore en Italie, à San Gimignano, vous voyez les 13 tours, là, donjons féodaux, pressés sur cette espèce de bourgade. Il en reste 13, il y en avait peut-être 20 ou 30. Dans la ville de Bologne, et je ne suis pas méridional, je n'exagère en rien, et ceci repose sur des études à partir d'actes notariés qui sont les documents les plus fiables que l'on puisse trouver, il y avait en 1290-1300 près de 200 donjons dans la ville, 200 tours, très célèbres. Vous n'avez pas une peinture italienne, pas une chronique illustrée qui ne montre les portes de ville, la flèche une de la cathédrale et toutes les tours seigneuriales. Ce sont des sociétés guerrières. Ces villes sont des sociétés guerrières bien plus que notre société féodale et notre société royale. Sans aucun doute. Et ce que je veux dire, ce que nous n'avons pas connu sauf à un moment, au moment où l'autorité royale était en faillite, c'est-à-dire au moment de la folie de Charles VI, bien sûr. C'était une folie d'ailleurs intermittente, mais ça c'est malheureusement quand même. Hermaniac Bourguignon, et puis ensuite autant de Jeanne d'Arc encore un peu, la lutte des partis. Mais ce court moment, nous n'avons pas eu ces querelles de partis qui font deux lignes dans ou trois lignes dans nos manuels, je comprends bien. Mais enfin, on pourra en dire plus, parce que c'est quand même aussi important qu'autre chose. Alors, je vais essayer, ça. J'ai un livre qui sort en Italie, en ce moment en italien. Pas voulu pas paraître en français, parce que le sujet n'est pas vendable, dit mon éditeur. Mais c'est un livre sur l'exil politique en Italie, vous savez. Vous avez connu Dante, Alighieri, et tous, toute la littérature italienne est marquée par l'exil. Et ces querelles de partis, ce sont des abominations. On parle de la querelle féodale, bon, ils étaient pris de faim, ils étaient pris de jalousie, ils s'y tripaient un peu, puis au moins, ils s'y tripaient durement, et puis surtout, le plus important, c'était encore d'obtenir les rançons. Hein. Tandis que la lutte guelfe-ghibelin, ou la lutte blanc-noir, ou la lutte, c'est des choses atroces. On tuait tout le monde, n'est-ce pas ? On les tuait. On tuait les femmes, les enfants, on rasait les récoltes, on brûlait, on coupait les pieds de vigne, n'est-ce pas ? Et quand on avait une querelle de parti dans les rues d'une ville, le fait qu'on arrivait à incendier les maisons, et c'est comme ça que donc il y a eu l'exil, la maison des vaincus, eh bien on livrait, et ils le disent, n'est-ce pas ? Ils le disent, on livrait les chefs de la famille vaincue à la... pas la populace, non, aux enfants, qui étaient peut-être, excusez-moi, on va se quitter quand même autrement, n'est-ce pas, si les peut-être, ils traînaient le cadavre dans les rues, puis surtout pas d'enterrement chrétien, n'est-ce pas, dehors. Donc, nous n'avons pas connu ça. C'est ça la vie des villes, il ne faut pas faire d'illusions. Et donc, vous voyez qu'il y a eu un montage historique et psychologique pour nous faire penser que tout ce qui était urbain, bourgeois, si vous voulez, était infiniment plus calme, plus noble que ce qui pouvait être nos racines à nous, qui étaient nos racines paysannes, nos racines de communautés villageoises, notre système de seigneurie particulier et le pouvoir royal. Il y a là une distorsion et je viens de faire je veux bien terminer quand même sur un mea culpa, mais une nuance. Je viens de faire le procès de cette histoire bourgeoise et républicaine. Elle a été voulue. Je n'ai rien contre ces enseignements ici. Je suis un peu particulier. Je dois beaucoup à l'école Elk. J'étais instituteur. Je lui dois énormément le sens du travail, l'exigence de l'effort, l'idée que l'on se fait soi-même et qu'on n'a pas besoin d'un parti derrière ça. Mais sur le plan historique, c'était l'intoxication. Du début à la fin. Ça, il faut l'admettre. Et malheureusement, cette intoxication, ils l'ont très bien répandue. Alors, il y a, je l'ai dit au fur et à mesure que j'avançais, il y a eu quelques excuses. Il y a eu des documents difficiles à trouver. Beaucoup plus difficiles à lire. Vous pouvez lire un paysan, pas si facile que de lire une bulle pontificale. Hein. Ça, c'est évident. Il y a quelques excuses. Mais, voyez-vous, j'ai voulu terminer pour l'Italie aussi, la ville et la campagne. Nous devons garder, non pas un esprit dénigreur ou critique à tout point, mais un esprit éveillé face au slogan. Et puis alors, il faut bien terminer par un petite fanfare, finalement une fierté de nous-mêmes. Je vous remercie. Comme vous voudrez.
Merci.
Oui, monsieur.
Vous n'avez pas parlé de la condition des fers.
Oui, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Attendez, vous permettez de donner un peu comme ça, c'est mieux. Non, la condition des fers, alors le servage n'est pas l'esclavage, ça c'est entendu. La condition des fers est très dure, il n'y a aucun doute. C'est un servage rural qui est héréditaire, qui interdit certaines professions, dont en particulier l'entrée dans les ordres, généralement, n'est-ce pas, qui est souvent le résultat d'une condamnation très dure, et la propriété de la terre est moins assurée que pour le tenancier, et la taille est là. C'est-à-dire qu'il y a un impôt spécial. Et ce que l'on dit, n'est pas généralement, c'est ce que l'on trouve taille à merci. Ça veut dire qu'elle est pas fixe. Ce qui est très gênant parce que, évidemment, ça ne veut pas dire que le fer va devenir misérable à se traîner par terre, ça veut dire qu'il ne peut pas s'enrichir. Le Seigneur ne va pas le tuer en mettant une taille trop forte, non, mais dès qu'il verra qu'il gagne beaucoup d'argent, il peut augmenter la taille. Alors, ceci dit, alors il faut nuancer maintenant, c'est que le servage a pratiquement disparu au cours des années 30. Il est très important dans l'an 1000, 1100, 1200. Peu à peu, le roi ayant donné l'exemple, c'est très régional. Il y a des régions, en Normandie, ça a disparu très vite. Dans la région de Laon, par exemple, on sait, il y a eu là des difficultés. Bon, alors, là, si vous voulez, c'est très choquant sur le plan mental. Mais attends, je tourne ma page, et puisque vous m'en donnez l'occasion, je ne manque pas de le faire. Ben oui, mais l'esclavage pur et simple existe dans les villes méditerranéennes. L'esclavage total. C'est-à-dire l'exploitation de l'esclave complètement, soit l'esclave de guerre lors de la piraterie, etc., soit les esclaves orientales achetés en Orient. Alors, toutes les villes italiennes en sont pleines. Moi, j'ai estimé ça à peu près 10% de la population de Gênes, quelquefois, et tout le pourtour méditerranéen français. Et alors, c'est curieux, on ne voit pas pourquoi ça arrête. Marseille, oui. Montpellier, oui. Perpignan, oui. Toulouse, non. Lyon, non plus. N'est-ce pas assez. Valence, je ne sais pas trop. N'est-ce pas. Mais il y a un héritage méditerranéen, et donc, ces villes qu'on nous présente, n'est-ce pas, comme la liberté, là, voyez-vous, là, Florence, à Gênes, et je vais même vous dire une chose qui est atroce, je crois que c'est l'année 1500, puis alors là, dès que je dépasse le 11, moi j'ai du problème, puis la soirée s'avance, la campagne de Louis XII en Italie, alliée à César Borgia, ils ont beaucoup de mal, n'est-ce pas, et ça nous est rapporté par tous les écrits, en particulier par Guichardin, dont la collection Bouquin vient d'éditer l'histoire d'Italie, n'est-ce pas, en détail, je le connaissais depuis longtemps, ils prennent Capoue, la ville de Capoue résiste, tous les chroniqueurs l'ont dit, les Français, et Borgia avec lui, mais les Français ont massacré les hommes, parce qu'il ne faut pas résister, là, ça c'est la guerre, et ils ont violé les femmes, bien sûr, emmené les femmes et les enfants en esclavage, et les ont vendus sur le marché de Rome. Nous sommes en 1500, n'est-ce pas? Et ça c'est l'Italie. Vous voyez? Alors, le servage paraît déjà... Si vous voulez, on va passer la nuit si je continue, paraît un peu ancien par rapport à ça, qui est très fort tout à la fin. Et alors je me suis dit, mais pourquoi cette haine? Eh bien, j'y trouve une, car je vous ai bien dit tout à l'heure que je pourrais passer autant de temps à essayer de redresser un peu ce qu'on peut penser de la Renaissance. Je vois dans cette affaire de Capoue, ben, il y en a eu d'autres, hein, Colla di Rienzo également, là, le tribun populaire de Rome, il a fait pareil avec des villes qu'il a pris autour 50 ans, 100 ans plus tard. J'y vois une influence de la vénération pour certaines formes de l'Antiquité, la manie, la mode du triomphe romain. Ça n'arrête pas, ça, c'est triomphe, c'est représentation du triomphe avec les esclaves enchaînés. Et alors, on est vainqueur de la même façon que les généraux romains d'autrefois, et on peut, vous voyez, vous traiter les vaincus. Enfin, vous ne parliez que du servage. La guerre des paysans de 1381, c'est ça, ou quelque chose comme ça? Oui, alors là, c'est une formule qui est très habituelle, et que nous employons toujours. Les grandes révoltes paysannes, qui étaient beaucoup plus dures que chez nous, hein, très dures, sont allées jusque dans Rome, ne sont jamais dues à la pauvreté. Elles sont dues à la menace de la perte de situation, disons pas de privilège, j'allais dire privilège parce que je pense certaines choses actuellement, mais elles sont dues à ça. Or, c'est le moment où l'Angleterre, c'est ce que l'on dit, a connu une réadaptation économique. Ils se sont mis, les seigneurs, à enclore les champs pour faire de l'élevage, mouvement des enclosures. Donc les paysans perdaient leur culture. Et puis ils ont, comme la ressource, bien que la guerre de 100 ans les ait enrichis, hein, les Anglais, la ressource diminuant, ils ont été plus attentifs à percevoir des taxes qu'ils avaient laissées en déficit. Ils se sont révoltés. Et puis il y a eu le mouvement religieux, Wycliffe et tout cela, ça qui joue un rôle naturellement très important, comme pour les Hussites en somme, n'est-ce pas, à ce moment-là. C'est quand même curieux que ces mouvements religieux
pensez-y, est une grosse, grosse importance. On ne pense pas à ça, mais vous savez que la révolte des princes avec le dauphin contre Charles VII, ça s'appelle la praderie. N'est-ce pas? C'est quand même curieux. Et on a une lettre de Jeanne d'Arc qui est écrite aux gens de Prague aussi. Donc tout ça a été connu. Et donc c'est à la fois spirituel et économique. Monsieur.
Vous n'avez pas dit comment est-ce qu'on
a fait un produit faire. On est un produit, certes, j'en fais trop rien. Mais réfléchissez, en espérantiste, bon, effectivement, ça c'est sûr. Je crois que c'est à un certain moment des populations qui ont été conquises au moment des invasions. Ça c'est tout à fait possible. Des gens qui ont été amenés comme ça. Puis alors, il y a eu tous les condamnés. Condamnés aux servages, et en particulier, ça, je crois que l'on peut le dire, des condamnations pour mésalliance, adultère, des choses comme ça. Hein. Donc, et les mariages. Les mariages mixtes, c'est fini, vous deveniez serfs aussi. Les enfants. Mais vous voyez les limites de la connaissance, là vous m'obligez déjà, monsieur, j'y allais un peu, à remonter au Moyen-Âge, moi avant, enfin c'est affreux de dire ça, mais j'ai eu, vous savez. Mais avant 1300, j'ai plus de mal. Mais là, vous êtes obligé de monter au temps mérovingien, là. Hein. Excusez-moi.
Par rapport à la chose militaire, le paysan, vous n'avez pas part en guerre, sauf de les subir quand ça se passe.
Il subissait très dur, oui. Il subissait surtout lorsque la guerre a changé. Quand il s'agissait d'une guerre modernement féodale, des histoires de vaches, comme on disait, mais avec la guerre de 100 ans, ça a été terrible, parce que l'on avait des mercenaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous voulez, avec le droit féodal, vous avez une guerre, le seigneur ou les palais du seigneur qui doivent, comme vous le savez, on l'a systématisé, mais on dit toujours 40 jours. Hein, 40 jours et ne pas perdre de vue le clocher de tout ça. Bon. Et évidemment, ils ont assez hâte de rentrer chez eux. Un type que vous payez, il vient d'où, hein, qui viennent d'Allemagne, du Brabant, ils sont là où ils ont quitté, et vous le cessez de le payer, il se dit, je continue à vivre, je le paye, c'était atroce, là. Ça, c'est désolation des campagnes, c'est abominable. Non, je ne pense pas. Ils se sont réarmés en autodéfense. C'est un peu la jacquerie. Ça a été ça, à ce moment-là, oui. Il y a eu Duby qui n'est pas suspect, si vous voulez, d'un tel conservatisme politique, a très bien expliqué l'affaire de Bouvines, où l'on nous a montré aussi, pour lui c'est une exagération, les milices communales. Il a étudié Bouvines, bon. Et puis ensuite il a montré pendant des siècles, bah, Bouvines, pas tellement, même Michelet, ça. Et puis alors, au moment, n'est-ce pas, où la République lance l'école laïque républicaine, il faut louer tout ce qui est communal. Alors les ministres communaux ont gagné la bataille de Bouvines. Oui, c'est ça. Mais... Ah, il... Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve que c'est illisible, mais ça ne veut pas vous dire une chose pareille. J'ai des collègues qui m'envoient l'enclos du lac et toutes ces choses-là. Autant, si vous voulez, c'est très curieux pour un théocien comme je suis, de ce point de vue-là, autant, si vous voulez, l'art médiéval, l'art de tout le Moyen-Âge, mais profondément accessible, autant la littérature, comme la musique, me semble difficile. Et c'est pour ça que je dis quelquefois, quand on dit, j'ai des collègues, j'ai lu des manuscrits, mais c'est terrible, ça c'était comme ça, et puis ça n'en fume. Je ne vous dis pas. Et c'est le poids des traditions. Une tradition, c'est importante parce que ça paraît une atteinte. Si on veut la supprimer. Je vous remercie.